Vous êtes sur RTL.
30.
RTL Midi.
Philippe Robuchon.
Bonjour à toutes et à tous. À Tokyo, pour l'instant, pas de médaille française à l'occasion de cette première journée de compétition. La journée n'est pas terminée. On fera un point complet avec Isabelle Langer, envoyée spéciale de RTL au Japon. En France, l'un des jours les plus chargés de l'année sur les routes. Bison futé a classé ce samedi 24 juillet en rouge vif dans le sens des départs. On fait un point radio-guidage dans une minute. Nous irons également Gare de Lyon à Paris. Forte affluence, mais grand sourire ce matin. Un été toujours sous la menace du Covid dans les Pyrénées-Orientales. Un village vacances doit prendre une mesure drastique. Il va fermer ses portes dès ce soir après la découverte de 4 cas positifs chez ses animateurs. Pour les vacanciers qui débarquent, c'est la douche froide. Nous serons sur place dans un instant au bar Carès. Et puis le cri d'alarme des distributeurs de cinéma. Depuis mercredi, depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire obligatoire, la fréquentation des salles dégringole. Ils en appellent au pouvoir public. On passera un coup de fil à Jocelyn Bouissy, directeur général du réseau CGR. Sans oublier l'un de vos rendez-vous de l'été sur RTL, nos plus belles routes des vacances. Christophe Bourou vous emmènera sur la magnifique route Napoléon. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Il y a de l'orage dans l'air.
Oui, c'est vrai que ça commence à claquer assez fort. Alors dans l'Est, on a 2 points cet après-midi. La Saône-et-Loire, la Côte d'Or et le Jura. Ça c'est pour les orages qui vont vraiment sévir dans le Grand Est tout au long de l'après-midi et de la nuit prochaine. Et puis d'autres orages sont arrivés par l'Ouest et ça touche là la Bretagne. Le Finistère, ça y est, c'est réglé. On a de bonnes grosses pluies entre le Morbihan, les Côtes d'Armor et déjà quelques averses à l'intérieur. Et ce sont précisément ces orages-là qui vont traverser le pays d'Ouest en Est dans les prochaines 24 heures finalement. Encore une fois, seules les régions méditerranéennes vont rester à l'écart avec un temps plutôt bien ensoleillé. Cela dit, avant que les orages arrivent, tout va bien, il y a du soleil. Les températures, elles baissent. 19 à Saint-Brieuc cet après-midi, 23 à Paris et Nancy, 25 à Tarbes, 26 degrés pour Gap et Angoulême et 28 à Saint-Tropez.
Merci Valérie. Tout de suite donc, un point circulation. Journée rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Première info, le pic de bouchons cumulé, il est un tout petit peu moins élevé qu'il y a une semaine à la même heure. 990 km de bouchons, tout de même, c'est pas mal. Bonjour Sarah Loubacouche.
Bonjour Philippe.
On commence par la vallée du Rhône.
Oui, c'est l'axe le plus fréquenté, l'autoroute A7 qui vous emmène vers le sud avec une vraie circulation en accordéon jusqu'à Marseille. Ça commence dès le sud de Lyon. Vous affrontez une grosse retenue entre Solèze et Vienne. Il vous faut une demi-heure pour la passer, hein, cette difficulté. Puis c'est compliqué dans la traversée de Valence et près de Montélimar aussi. Vos temps de parcours sont donc très très impactés. Comptez plus de 3h30 pour aller du sud de Lyon à Orange. C'est 2h de plus que quand le trafic est fluide.
Alors ça bouchonne pas mal également vers l'ouest et le sud-ouest.
Oui, c'est le deuxième gros point de difficulté. Sur l'A10, quand vous venez de l'Île-de-France en direction de Bordeaux, ça commence avant de rejoindre Orléans après la sortie 12. Il vous faut 3/4 d'heure pour passer ce bouchon. Puis entre Tours et Bordeaux, vous affrontez 350 km avec une succession de points de blocage, en tout compté 5h30 pour traverser ce parcours bouché.
On n'oublie pas que bien que nous soyons que le 24 juillet, il y en a déjà qui rentrent. Les retours,
et ben c'est plus fluide, quand même quelques difficultés notamment en vallée du Rhône. Donc si vous vous dirigez vers Lyon, la limitation de vitesse est de vigueur, 110 km/h maximum et même 90 de Malataverne à Châteauneuf-sur-Isère.
Merci.
RTL à Tokyo.
Et oui, on part tout de suite à Tokyo. La bonne nouvelle, il y a quelques secondes, Isabelle Langer, la première médaille française.
Et elle est de bronze, Philippe, et nous vient du judo avec Luca Meredze, moins de 60 kilos, un petit gabarit d'1m60 qui a obtenu la nationalité française en 2015. On en reparlera tout à l'heure.
À tout à l'heure, Isabelle. Oui, dans une dizaine de minutes, un petit peu moins. On revient au départ en vacances de ce matin qui s'accompagnait parfois du cocktail pluie, orage et bouchons. Il fallait être patient, prudent. Écoutez, tiens, ces vacanciers rencontrés par Frédéric Perruche sur l'air de Saint-Rambert-d'Albon, dans la Drôme.
Effectivement, ça a été très compliqué d'arriver depuis Tournu jusqu'aux environs de Valence. Et on a de la route là, on a encore beaucoup de route jusqu'à Narbonne, en espérant arriver avant le milieu d'après-midi. Ce serait bien.
Mais là, ça bouchonne sec.
Pas. On va attendre la fin de journée pour arriver à Narbonne. Mais ça bouchonne sec, quoi, c'est sûr. Plusieurs kilomètres de bouchons, ouais, plusieurs dizaines de kilomètres de bouchons même. Depuis Lyon, oui.
Supporté ?
Ça va. C'est les enfants surtout le plus difficile, quoi. Ils s'ennuient vite. On trouve un peu le temps long et puis on a hâte d'arriver surtout. Voilà, profiter de la plage. S'installer.
Mais garder le sourire, hein. La plage est au bout du chemin.
On essaie de garder le sourire. On a très hâte d'y être.
Voilà, Slimane au micro de Frédéric Perruche. Slimane qui va à Narbonne au milieu des bouchons. Beaucoup de monde sur les routes, beaucoup de monde dans les gares également. On attend 900 000 voyageurs tout le week-end. Bonjour Nathan Bocard.
Bonjour Philippe.
Vous êtes vous en direct de la gare de Lyon à Paris. Pour des milliers de voyageurs ce matin, c'était presque la libération.
Ah oui Philippe, l'ambiance est très détendue ce midi, gare de Lyon. Il faut dire que certains les attendaient beaucoup ces vacances. Hein. C'est le cas par exemple de cette bande d'amis surexcités de partir vers la Côte d'Azur pour une croisière.
Alors on est comme des dingues, parce que c'est notre seule semaine de vacances. On a tous plus ou moins décroché nos CDI il n'y a pas beaucoup de temps. On part entre copains, c'est la fin du Covid, vive la vie quoi.
C'est un peu les vacances fin de Covid, ouais. Bah, on a un peu choisi le bateau pour ça aussi, parce qu'on avait un peu envie de décrocher de tout ça.
Alors fin de Covid, peut-être pas. La quatrième vague pèse quand même hein, sur ces vacances. Paul, par exemple, reste inquiet au moment de monter dans le train.
On voit que le vent est un peu en train de tourner, donc on a peut-être attendu trop longtemps avant de partir. Et on espère que ça ne perturbera pas trop nos vacances.
Et sa femme Elodie compte quand même profiter de ses vacances bien méritées.
Elles sont attendues par tous et ça va être un grand bonheur de partir au large. Par rapport à, évidemment, au contexte vécu toute l'année, une grande fatigue. Et du coup, tout le monde a besoin de vacances. Et donc, on sent un peu l'envie de s'échapper.
Alors s'échapper, oui, mais pas trop loin. Hein. Cet été, plus de 80% des vacanciers comptent rester en France.
Merci Nathan Bocard, en direct de la gare de Lyon à Paris pour RTL. Il est 12h37, on va marquer une petite pause. Et puis dans un instant, on parle toujours des vacances, mais sous la pression du Covid.
RTL Midi. RTL Midi, Philippe Robuchon.
Je vous le disais, la seule ombre au tableau de ces vacances, elle est de taille, c'est évidemment toujours la menace du Covid et les restrictions qui l'accompagnent, masques, passes sanitaires, sanctions. D'ailleurs, toute la journée, des rassemblements sont prévus dans toute la France contre les mesures annoncées par Emmanuel Macron. Les opposants étaient 110 000 dans la rue samedi dernier. Ils seront sans doute au moins aussi nombreux cet après-midi pour faire pression sur les sénateurs qui débattent actuellement du projet de loi. Si 76% des Français approuvent la plupart des mesures de restrictions, beaucoup d'entre vous estiment qu'on devrait être plus tolérant à l'égard de ceux qui sont déjà vaccinés. Plus tolérant notamment sur le port du masque. Écoutez par exemple ces vacanciers rencontrés par Nicolas Bobby à Notre-Dame-de-Mont, en Vendée.
Mais moi j'estime que ce serait obligatoire pour celui qui n'est pas vacciné. Nous qui sommes vaccinés, je ne vois pas pourquoi on mettrait le masque. Par contre, celui qui n'est pas vacciné, qui n'a pas de masque, là ça serait un PV au moins à 500 euros. Voilà, clair et net. Moi, c'est mon opinion. Parce qu'on nous oblige à nous faire vacciner. Alors si en plus, il faut qu'on mette le masque et qu'on se prend un PV, je ne suis pas d'accord. Alors, il faut des limites à la connerie.
En fait, nous, on a été bon élève, on s'est fait vacciner. Voilà. Et puis on se rend compte qu'en fait, on fait comme les autres. En fait, on va subir la même chose que les autres.
On subit pareil, on n'a aucun avantage à être vacciné.
Vous l'avez à la main.
Si je rentre dans une boutique, là, je le mets quand même. Ouais. Il devrait y avoir des contrôles aléatoires, comme ça. Celui qui n'est pas vacciné, là, qui n'a pas de masque, là, pan.
Alors, parmi les départements les plus touchés par le Covid depuis quelques jours, les Pyrénées-Orientales. Hier, le taux d'incidence y a battu un nouveau record, 492 cas pour 100 000 habitants. À Barcarès, un VVF, le club de vacances des Portes du Roussillon, se retrouve dans une situation catastrophique. 4 cas de Covid chez ses animateurs. Du coup, la direction a pris une décision difficile en pleine saison. Le club, Benjamin Pelsi, vous êtes sur place pour RTL, le club va fermer ses portes ce soir.
Oui, et devant les grilles du village de vacances, Sonia attendait il y a encore quelques minutes sur sa valise, fraîchement débarquée du train avec sa fille et sa mère. Elle fait partie des rares que la direction n'a pas pu prévenir de l'annulation de son voyage.
Nous, on était dans le train et je n'avais pas de réseau sur mon portable. J'ai pas eu de message. Donc on est arrivé à 11h ici. Quoi. On est fatigué et on attend. Là, on s'impatiente pas, on attend. On nous a dit que ça allait s'arranger, qu'on allait nous reloger. Et voilà, on attend.
Alors 700 vacanciers devaient arriver aujourd'hui. Jean-François Gouriot, le directeur du site, préfère ne pas les accueillir. Il met en place ce qu'il appelle une bulle sanitaire pour sauver le reste de la saison.
À un moment, il faut prendre une décision. On est en discussion avec les ARS, on n'a pas d'obligation de fermer. On a pris une initiative avec les équipes, c'est d'arrêter l'hémorragie tout de suite, en se disant que voilà, on veut sauver notre saison. Entre ceux qui ont été testés et la seconde étape, qui est un nouveau test la semaine prochaine, on va créer une sorte de bulle sanitaire autour du village. S'occuper de nos salariés malades, s'occuper de nos équipes, et on va s'auto-confiner.
Alors ce matin, le site n'était pas intégralement vide. Il y avait 380 départs aujourd'hui. Et parmi ces départs, quelques clients devaient prolonger leur séjour encore. Eux seront relogés dans d'autres centres de vacances ou seront remboursés. Le village, lui, rouvrira ses portes le samedi 31 juillet.
Benjamin Pelsier en direct de Barcarès pour RTL. Merci. Dans le reste de l'actualité, deux drames la nuit dernière. D'abord à Cholet, dans le Maine-et-Loire, un homme de 34 ans tué par balle en pleine rue après une altercation. Un suspect est en garde à vue, deux autres en fuite. Puis à Marseille, un homme de 26 ans tué par balle dans une cité des quartiers nord, la cité des Oliviers, au lieu du trafic de stupéfiants.
RTL à Tokyo.
Allez, retour à Tokyo avec un grand sourire, Isabelle Langer, puisqu'il y a moins d'un quart d'heure, donc je le disais, première médaille française. Elle est en bronze pour un judoka.
Oui. Eh oui, la belle médaille de bronze de Luca Meredze, effectivement, en moins de 60 kilos, Philippe. C'est un petit gabarit d'1m60, originaire de Géorgie. Il est arrivé en France à l'âge de 12 ans. Ses parents se sont installés au Havre et c'est d'ailleurs le maire de la ville portuaire, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, qui lui a délivré la nationalité française en 2015. Et vous savez quoi? En Géorgie, on lui avait refusé sa licence de judo parce qu'il était trop petit à cause de sa taille. Allez, écoutez la première réaction de Luca Meredze au micro de nos confrères de France Télévisions.
Je suis très très heureux depuis que je suis tout petit, je pense, de participer aux Jeux, rapporter une médaille. Et en 2020, c'était pas gagné pour moi. Je devais pas aller aux Jeux, mais ce report m'a laissé une autre chance de me qualifier. Aujourd'hui, je suis là. Et là, je sors de mon combat. Je reviens pas encore que j'ai réussi à décrocher cette place de 3. Et merci aux supporters, je les entendais. Et c'est ça qui faisait aussi qu'à chaque fois je me relevais, j'allais attaquer parce que je savais qu'ils étaient tous derrière moi et c'est ça qui m'a fait aussi, qui m'a donné des peps quoi.
Oui, très essoufflé mais très ému, on l'entend, Luca Meredze, Isabelle Langer. Les autres performances de la nuit, pas de médaille bien sûr, pas d'autres médailles, mais les Bleus du Hand n'ont pas manqué leur entrée dans le tournoi.
Oui, une victoire propre et nette sur l'Argentine, 33-27. Meilleur buteur, Melvin Richardson, avec 7 ballons au fond des filets, rien qu'en seconde période. Il est au micro de France Télévisions.
On avait à cœur de bien rentrer dans cette compétition. Le premier match, c'est toujours important. On ne sait jamais, ça peut être un match piège, ça peut être un match compliqué. Et on l'a plutôt bien maîtrisé du début jusqu'à la fin, même si on s'est fait un peu peur en fin de première mi-temps. Et donc voilà, on s'attend à un gros, gros match contre le Brésil dans 2 jours.
Et en tennis, Jérémy Chardy, Hugo Humbert et Fiona Ferro ont passé le premier tour. Victoire aussi en double pour Ferro, qui est associé à Alizé Cornet. En revanche, c'est terminé pour Gilles Simon et Kristina Mladenovic en simple. Et surtout, la paire Mahut Herbert a perdu en 2-7, 6-3, 6-2 contre les Britanniques Andy Murray et Joe Salisbury.
Isabelle, en cyclisme, une petite déception pour le Breton David Gaudu.
Bah oui, il était dans le sprint final, mais il a échoué à la 7e place d'une course remportée par l'équatorien Richard Carapaz devant le Belge Wout van Aert et surtout le vainqueur du Tour de France, le Slovène Pogačar. La déception de David Gaudu au micro, là encore, de nos confrères de France Télévisions.
Ça reste une 7e place et il n'y a que les 3 premières places qui comptent sur les Jeux, il n'y a que 3 médailles, donc c'est dommage. Mais bon voilà, maintenant c'est fait, on aura essayé, on a couru comme on l'avait dit au briefing, donc je pense qu'il n'y a pas eu d'erreur de fait par rapport au briefing et je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir.
Je reprends.
Isabelle?
Oui, déception, excusez-moi, pour la jeune, ça c'est du direct, hein. Déception pour la jeune Océane Muller qui termine à la 5e place du tir à la carabine à 10 mètres. Mais vous savez, elle a 18 ans, elle est championne d'Europe en titre et elle positive en expliquant qu'elle est surtout à Tokyo pour emmagasiner de l'expérience et que son objectif, c'est bien évidemment Paris en 2024. C'est le même état d'esprit pour Pavad, 16 ans, espoir du tennis de table qui a été éliminé au premier tour. Et puis dans le nouveau sport, il y avait le basket 3-3. Et bien malgré le soutien d'Emmanuel Macron dans les tribunes, les Françaises ont perdu contre les États-Unis.
Isabelle, il reste des épreuves hein, encore aujourd'hui.
Oui, et en natation, les filles du relais 4x100 visent une qualification pour la finale. Léon Marchand vient lui d'arracher son billet pour la finale du 4x400 avec le 7e temps. Et puis à 14h45, pour vous à Paris, 21h45 ici, et bien l'équipe de France de volleyball attaque son tournoi olympique contre les États-Unis.
Merci mille fois Isabelle, reprenez vos esprits après donc cette première médaille française.
Elle
est en bronze,
bien au moral.
Elle fait du bien, voilà, c'est pour ça qu'on est tous un peu émus.
Tout le monde ici.
Luca Meredze, judoka français, bravo à lui. Tous les résultats résultats de cette journée, on les aura évidemment tout à l'heure dans le journal de 18h. Et puis juste après, on vous retrouvera dans On refait les Jeux entre 18h30 et 19h, animé évidemment par Marie Portolano et Jean-Michel Rascol. Un tout dernier mot de sport, football, reprise de Ligue 2 cet après-midi. À 15h, Bastia accueille Nîmes au stade Armand Césari. Ce sera le tout premier match sous passe sanitaire. Les autres rencontres à partir de 19h. Il est 12h47 sur RTL. Petite pause. Dans un instant, l'invité de ce journal, Jocelyn Bouissy, il dirige le réseau des cinémas CGR. Et comme tous ses collègues, il est très inquiet. Le pass sanitaire est en train de faire plonger la fréquentation des salles obscures.
RTL Midi. RTL Midi.
Philippe Robuchon.
Et l'invité de ce journal à 12h48 sur RTL, c'est monsieur Jocelyn Bouissy. Bonjour. Monsieur Bouissy.
Bonjour.
Bonjour, alors oui, il y a un petit décalage audio, on va essayer d'arranger ça. Merci d'être en direct avec nous.
Je vous entends.
Parfaitement. Vous êtes directeur général de CGR Cinéma, l'un des principaux réseaux de salles obscures en France. Et avec vos collègues, je le disais, vous êtes très inquiet, vous poussez même un cri d'alarme face à la baisse de fréquentation des salles obscures. En cause, le fameux pass sanitaire qui est entré en vigueur mercredi.
Oui, avec des niveaux d'entrée au-dessus de 2019 qui étaient fantastiques, jusqu'à mardi d'ailleurs avec l'avant-première de Kaamelott où on a fait 60 000 entrées dans notre groupe seulement, et mercredi patatras, passe sanitaire, pour tout vous dire on réalise 30 000 entrées sur tous les films par rapport à la veille. Oui, c'est une catastrophe, encore une fois on est les premiers encore à essuyer les plâtres. Ça devient compliqué pour nous, pour la profession entière.
Donc clairement, la cause, c'est le pass sanitaire. Ça, c'est, les chiffres sont tellement spectaculaires entre mardi et mercredi qu'il ne peut pas y avoir d'autre cause.
Non, il n'y a aucune autre. Il y a du film, hein, vous savez, entre Kaamelott, Fast and Furious, il y a beaucoup de films français, il y a Titan. Oui, parce que ça a été mal préparé. Les gens ne comprennent pas pourquoi les restaurants, c'est dans 3 semaines. Le cinéma, on parle du masque, et puis après... plus de masques, mais l'obligation du pass sanitaire, c'est essentiellement lié au pass sanitaire et à la cacophonie, je vais dire. Parce qu'on nous annonce tout et son contraire tous les jours, le contrôle pièce d'identité, puis il n'y a plus de pièce d'identité, et puis il n'y a pas de contrôle. Nous, on a quand même subi des contrôles assez forts dans certaines villes, avec des menaces. Voilà, c'est quand même une situation vraiment inhabituelle et très compliquée pour nous.
J'imagine. Vous en appelez au pouvoir public, M. Bouissou?
Oui, on en appelle surtout, vous savez, dans un bretin, le rêve que j'ai, c'est que les distributeurs qui ont toujours joué le jeu avec nous depuis des semaines et maintenant un an et demi, en gardant les films à l'affiche, là on est en train de faire le lit des plateformes, je vais rencontrer des Netflix, d'Amazon, du téléchargement illégal. Et là, on est en train, j'espère juste que les distributeurs ou les majors américaines et les distributeurs français ne vont pas décaler et annuler des films à cause de cette situation. Et là, évidemment, de toute façon, même en restant ouvert, comme c'est catastrophique, il faut absolument que l'État nous assiste. Je ne me plains pas. On a toujours été aidés depuis le début, pas en proportion de tout ce qu'on perdait. Mais là, c'est plus possible. Il faut revenir au moins à tout ce qui avait été fait jusqu'à et qui s'arrête, le chômage partiel pour partie. Il faut revenir sur des bases claires parce qu'on est en train de perdre entre 60 et 70% tous les jours.
Oui. Le dispositif activité partielle, vous en avez dit un mot, on rappelle ce que c'est exactement ?
Oui, on a encore le chômage partiel pour certains employés, pour la culture en tout cas c'est le cas, mais évidemment les exonérations de charges et la part de remboursement par l'État du chômage partiel baissait à partir du mois de juin. Donc on peut dire, nous, que ce soit au mois de juin, on a bien travaillé, mais par contre, à partir de mercredi avant-hier, ou il y a 3 jours, c'est une catastrophe. Il faut revenir sur des bases normales avec toutes les aides qu'on avait pu avoir jusqu'à la fin du mois de juin.
Oui, c'est d'autant plus terrible pour vous tout cela, c'est que ces derniers temps, en ce milieu d'été, il devait y avoir deux grosses sorties. Un Kaamelott, vous l'avez dit, mercredi, qui ne fait pas les résultats escomptés à cause, dites-vous, de ce pass sanitaire. Il va y avoir également le OSS 117 avec Jean Dujardin qui arrive le 4 août. Et là, ça risque d'être une catastrophe si les spectateurs ne sont pas au rendez-vous.
Voilà, on espère juste, parce que nous, on avait évidemment que les décisions qui ont été prises, c'est pour arrêter enfin avec cette pandémie. Il fallait juste un peu plus de temps, le temps de que les gens se fassent vacciner, le fait que les jeunes aient le temps de se retourner. Et là, honnêtement, j'espère que OSS 117 restera. Il y a Bac Nord, il y a Eiffel, il y a plein de films français super cet été. Voilà, je suis toujours optimiste, hein, donc je me dis que bon, tous les jours, il y a des gens de plus en plus vaccinés, ou en tout cas qui font leurs tests. Et puis, après l'effet négatif des jours où les gens ne comprenaient rien à la communication qui était faite autour du cinéma, vont peut-être se dire bon, mais voilà, c'est peut-être pas vital le cinéma, mais la culture, c'est essentiel. Et oui, le cinéma est essentiel.
Et puis, l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les cinémas, c'était le 21 juillet, donc c'était hier, hein, quasiment. Peut-être qu'il faut laisser un tout petit peu de temps aux gens pour s'habituer aux nouvelles mesures. On vous le souhaite, en tout cas. Merci.
On ne rêve que de ça.
Voilà, nous avec vous. Merci, monsieur Bouissy, d'avoir été en ligne avec nous dans RTL Midi. Je rappelle que vous êtes directeur général de CGR Cinéma. Petite pause, dans un instant, vos plus belles routes des vacances.
RTL, toujours avec vous. Voilà. RTL Midi,
Philippe Robuchon.
C'est l'un de vos rendez-vous de l'été sur RTL. Après la Nationale 7 la semaine dernière, Christophe Bourreau vous fait découvrir aujourd'hui la route Napoléon.
Christophe Bourreau sur RTL, nos plus belles routes de vacances.
C'est parti pour 340 km entre Golfe-Juan et Grenoble, sur ce tracé historique emprunté par Napoléon lors de son retour d'exil de l'île d'Elbe en mars 1815. Et bien, plus de 200 ans après, c'est en deux chevaux que nous parcourons cette route.
Alors aujourd'hui, on va faire la route Napoléon avec une deux chevaux de 1955.
Au volant, Thierry Dubois, grand spécialiste des routes nationales.
C'est intéressant de faire le parallèle avec les chevaux de l'époque, les chevaux de Napoléon, parce qu'elle va quand même pas très vite. À peine plus vite, je dirais, que les troupes de Napoléon, qui ont un rythme assez soutenu, puisqu'ils arrivaient à faire des étapes jusqu'à 60 km par jour, ce qui est vraiment impressionnant parce que les soldats étaient à pied. Surtout que, comme on peut le constater, ça monte quand même très fort au début.
Et on le sent bien, hein, notre Dodoche s'accroche au virage, au lacet, qui nous entraîne de grâce au col de la Faille, à 948 mètres d'altitude. De la vue imprenable sur les massifs de l'Estérel et des Morts, le golfe de la Napoule et les îles de l'Hérins.
On a des superbes vues sur le littoral, quoi. Et pendant à peu près encore 30 km, on verra la mer. Et toujours de plus en plus haut, quoi. Faut pas hésiter à s'arrêter pour regarder, quoi, la côte.
Ce paysage unique en fera l'une des premières routes touristiques de France en 1932. Route qui va rapidement attirer des milliers de touristes, comme se souvient André dans les années 60. Il servait l'été de l'essence dans la station-service de ses parents.
Moi, quand j'avais 9, 10 ans, il y avait sur une portion de 2 km, il y avait 3 stations-service. Des vieilles pompes, bien rondes, même une pompe à gasoil ou... Pour servir le gasoil, il fallait pomper à la main parce que ça, il n'y avait pas de moteur électrique. Et des gens qui, quand nous, on n'était pas tout le temps là, tac, ils klaxonnaient, on descendait, puis on faisait le pare-brise, ils nous donnaient une petite pièce et puis on était contents.
Alors, station-service Napoléon, auberge Napoléon, hôtel Napoléon. Ici, le nom de l'empereur fait recette.
Alors, on traverse Saint-Vallier. Là-bas, là, sur une colonne, il y a un buste de Napoléon qui marque l'endroit où l'empereur s'est reposé dans l'après-midi du 2 mars 1815. Et puis, il y a un hôtelier qui lui avait amené à boire et qui, pendant des années, dans l'auberge, on présentait l'authentique verre dans lequel a bu Napoléon. Authentique verre qui, bien sûr, faisait l'envie de pas mal de touristes qui ont parfois donné des fortunes pour l'acquérir. Et du coup, le verre, il était remplacé le lendemain par le même, quoi. Donc, on peut penser qu'il y a comme ça quelques milliers authentiques verres de Napoléon tout au long de la route, quoi.
Avec aussi sa part de mystère.
La colonne transportait un trésor, de l'argent, puisqu'ils payaient cash tout ce qu'ils achetaient tout au long de la route. Et il y a un endroit, un mulet qui est tombé dans une rivière et qui a perdu son chargement. Et donc, pendant des années après, les gens allaient dans le coin pour retrouver des pièces et tout qui traînaient. Bon, moi, je vous dirais que je sais où c'est, donc je pourrais aller faire quelques recherches.
À l'époque de Napoléon, on voyageait à dos de mulet sur des routes escarpées, comme la traversée de ce pont.
Ici, on arrive à Castellane. On passe sur le Verdon, sur le pont.
Attendez, là, pour passer, c'est hyper étroit. Et comment faisaient les 1000 soldats de Napoléon pour passer, hein,
Alors, déjà, ils avançaient en file indienne, hein. Il y avait le Cambronne qui dirigeait l'avant-garde, qui avait à peu près une demi-journée d'avance et qui préparait le terrain. Et puis, il y avait une arrière-garde qui était à peu près une demi-journée derrière. Donc, ça s'étirait vraiment tout au long de la route.
Et sur cette route, on ne compte plus les virages, point culminant le col Bayard et ses 1240 mètres d'altitude. Puis, passage de villes et villages magnifiques, Sisteron, Gap et La Fraye, où là encore, le paysage fait un clin d'œil à l'histoire.
Ici, on passe sur la Nationale 85, la route Napoléon, devant la prairie de la Fraie. Puis si on regarde la montagne derrière, on voit que les bois ont été taillés en forme d'aigle. Et donc, on a l'aigle impérial qui s'imprime sur la montagne derrière. On le voit bien là quand on passe là.
Et rares sont les routes qui offrent une telle diversité en France. Des palmiers de la Méditerranée au sommet enneigé des Alpes, quatre départements traversés pour terminer à Grenoble.
Le véritable atout de cette route, c'est qu'elle est magnifique. Quoi. Elle traverse des paysages grandioses et superbes. Napoléon est donc passé une fois, j'irais, sur cette route dans la première semaine de mars 1815. Et il a laissé une empreinte très forte. On a du coup le sentiment de passer juste derrière lui, quoi. Et ça procure quand même de l'émotion. On est là, 200 ans après sa mort, il est toujours présent, quoi. Il fait partie du paysage, on le sent partout, quoi.
Au final, en deux chevaux, il nous a fallu une bonne journée pour parcourir cette route. Alors bien sûr, rien à voir avec l'exploit de Napoléon et ses troupes qui la traversèrent à pied et souvent sous la neige en à peine 6 jours.
Les plus belles routes de vacances sur RTL.
Avec Christophe Bourou, il est 13h.
RTL Midi.
Philippe Robuchon.
Tout de suite, la route de vos vacances. Vous êtes nombreux à circuler. Presque 1000 km de bouchons à la mi-journée. On fait le point avec vous, Sarah Loubacouche.
Alors, c'est moins que la semaine dernière. Ça reste quand même très dense, hein, notamment en Provence. Pour vous qui venez de la vallée du Rhône par l'A7, vous êtes au ralenti pour vous engager sur l'A8. Encore plus pour traverser Aix-en-Provence. Dans l'autre sens également, vous roulez le pied sur le frein avec une heure de trajet supplémentaire pour aller de Nice à Orange. Beaucoup d'attentes au péage de la Barque. Donc, si vous allez en direction de Marseille ou bien de Lyon, bison futé, vous conseille de sortir à l'échangeur 33, d'emprunter la départementale 6, puis la 51. Voilà, c'est l'itinéraire que vous conseille Bison Futé. Bon courage à tous sur les routes.
Merci Sarah Lou. Une première médaille pour la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle est de bronze. Le judoka Luca Meredze décroche la 3e place dans la compétition pour les moins de 60 kilos. Les handballeurs, eux aussi, ont réussi leur entrée. Ils se sont imposés en match de qualification face à l'Argentine. Des bonnes nouvelles, mais pourtant la journée avait mal commencé. En tennis, la paire Nicolas Mahut-Pierre Gerber a été éliminé dès le premier tour. Dans le reste de l'actualité, de nouvelles manifestations contre le pass sanitaire. Les autorités attendent près de 110 000 personnes dans les rues cet après-midi. Le projet de loi sanitaire que contient ce dispositif est quant à lui examiné en ce moment au Sénat et un soutien de poids pour l'exécutif. Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs Les Républicains, fait savoir que la majorité sénatoriale va accompagner le gouvernement sur le pass sanitaire. Les contaminations, elles, continuent leur hausse. Ces dernières heures, ce sont 21 000 nouveaux cas qui ont été recensés. On termine avec la météo. Valérie Quintin, le ciel va se couvrir cet après-midi.
On a déjà des orages. Alors, il y a deux systèmes qui circulent sur le pays. D'abord, dans le centre-est, sur la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, le Jura, des orages qui vont remonter vers les frontières du Nord et ça va claquer assez fort tout au long de l'après-midi en remontant. Et puis, on a une autre salve orageuse qui, elle, arrive par l'ouest. Donc, ça va vraiment dans tous les sens. Et là, c'est la Bretagne, les Pays de Loire et la Vendée qui sont touchés par des averses orageuses. Et précisément, ces averses-là vont se répandre sur une très large moitié nord du pays d'ici la fin de la journée. Plus au sud, finalement, c'est pas trop mal, notamment près de la Méditerranée où il y a vraiment un grand ciel bleu. Mais ailleurs, avant que les orages n'arrivent quand même, on va profiter de très belles éclaircies. Les températures, un petit 18 à Dunkerque cet après-midi, 24 à Paris et Strasbourg, 25 à Poitiers, 26 degrés à Vannes, à Pau, à Albi, 27 pour Quimper et 28 à Cahors.
Merci Valérie. Bon courage à vous tous si vous êtes sur les routes, en voiture, dans les bouchons. Dans un instant sur RTL, les voix du crime, Jérôme Florin revient sur l'affaire Francis Hall.